Radio Classique, les spécialistes.
Alors les spécialistes, tout à l'heure vous allez avoir droit, si je puis dire, à une évocation extraordinaire, celle de Jean Moulin, avec des voix de Daniel Cordier, et puis aussi ce rendez-vous de Caluire, vous en souvenez là aussi, alors là on remonte dans le temps, c'est pas Zidane, avec la trahison de René Hardy, qui vous savez, d'après ce qu'on sait historiquement, aurait été pris en main par Barbie, qui l'aurait menacé de lui supprimer une de ses liaisons, et c'est pour les raisons pour lesquelles, pour des raisons sentimentales, il l'aurait balancé, si je puis dire, Jean Moulin, dont on connaît la suite.
Daniel Cordier, qui va avoir 100 ans cet été.
Voilà, exactement, comme mon père, jeudi prochain.
Bon, c'est beau.
Bon anniversaire.
Grand ami de Daniel Cordier. Alors, parlons avec vous, puisque Emmanuel, vous ne savez plus très bien où vous étiez en 2006. Cette visite qui fait couler beaucoup d'encre, le président mexicain López Obrador est à Washington. Il vient d'être reçu par Donald Trump et c'est une rencontre qui est très critiquée à l'heure où l'épidémie flambe dans les deux pays.
Oui, ce qui est d'autant plus impensable avec ce qui s'est passé il y a quelques heures à la Maison Blanche, c'est que vraiment tout oppose les deux hommes qui se sont rencontrés. Bon, je ne rappelle pas les phrases de Donald Trump sur les criminels drogués, les violeurs mexicains, son obsession du mur de sécurité à la frontière. J'aime bien quand on dit je rappelle pas, qu'on rappelle quand même. Donc je le fais. Or voilà que le milliardaire américain accueille le champion de la gauche mexicaine, élu président il y a un an et demi, et qui a choisi Washington pour sa toute première visite à l'étranger. Et comme le chef de la Maison Blanche ne manque jamais de nous surprendre, il parle de Manuel López Obrador comme d'un ami et d'un homme bien, lequel le président mexicain, plus pragmatique et moins élogieux sur son hôte, se dit surtout soucieux d'avoir de bonnes relations avec son voisin américain. Et il fait ce voyage en prenant prétexte du nouvel accord de libre-échange nord-américain qui entre en vigueur, car l'ALENA, né un 12 août 92, a bien grandi. Il va avoir un petit frère. Sauf que ce voyage fait hurler les élus hispaniques américains et certains démocrates qui trouvent que M. Obrador offre à Donald Trump une bien belle photo qui n'a pas de raison d'être ni politiquement ni sanitairement. Alors que les Américains, vous savez, ont franchi hier les 3 millions de cas de Covid-19. Ils sont dans la pandémie jusqu'aux genoux, pour reprendre la formule du docteur Fauci. Quant aux Mexicains, eux aussi voient les chiffres de la contamination s'envoler. Alors certes, dans l'avion qui l'emmenait à Washington, un vol commercial normal, le président Obrador portait un masque, mais hier, dans les jardins de la Maison Blanche, on l'a vu sur les images, plus personne n'en portait.
On a l'impression que la crise sanitaire est en train de devenir le sujet numéro un de la présidentielle de novembre, et c'est surtout le sujet numéro un de l'ensemble du continent américain.
Oui, oui, absolument. Alors, en Amérique, c'est tout à fait le cas, puisque depuis plusieurs mois, vous savez que Donald Trump cherche à détourner l'attention de sa gestion calamiteuse de la pandémie en parlant sans cesse reprise économique et en poussant un déconfinement accéléré. Mais la situation est tellement grave maintenant qu'il est désormais impossible de parler d'autre chose, même en vue des élections. Et ce qui est frappant, c'est que les deux candidats finalistes, Trump et Biden, intègrent le contexte sanitaire dans leur campagne de manière totalement opposée. D'un côté, vous avez le président républicain qui a décidé de reprendre les meetings et qui veut tenir la Convention nationale d'investiture en présentiel le mois prochain en Floride, même si le port du masque sera sans doute obligatoire. Ça va se passer à Jacksonville. Alors que son adversaire démocrate a annulé toutes ses réunions publiques. Il envisage une convention de nomination virtuelle en août et il fera donc campagne principalement dans les médias à coups d'interviews, de spots et des fameux débats à partir du mois de septembre-octobre. Autrement dit, l'attitude volontariste, presque provocatrice, on pourrait dire, façon Trump-Bolsonaro, face à la prudence responsable façon Biden pour tenter d'enrayer l'épidémie, vont devenir des arguments de campagne et des éléments sur lesquels les électeurs auront à se prononcer lors du vote décisif, le fameux mardi 3 novembre.
Merci mille fois, nous sommes avec Emmanuel Faux, il est 7h44, nous allons passer donc à l'économie avec vous, Dimitri. Tout à l'heure, nous recevons Madame Pannier-Runacher, qui est ministre déléguée à l'industrie. Il y a les affaires de Nokia, les affaires évidemment d'Airbus, on attend une grande manifestation à Toulouse aujourd'hui.
Hein, c'était hier matin.
Non, il y a eu hier et
oui.
Ça recommence.
Ah oui, c'est dans les rues de Toulouse, vous avez raison.
Ça recommence aujourd'hui. Oui. Hier, c'était...
Sur le site même d'Airbus.
Voilà, ouais. Le site même d'Airbus dans la banlieue de Toulouse. Au fond, que peuvent-ils faire?
Qu'est-ce que l'État peut faire?
Ben oui.
Bah écoutez, en fait, le journal Le Monde a une bonne formule. On est réduit un petit peu à en même temps. C'est-à-dire en même temps, on soutient et en même temps on va contrôler et on va faire attention à pas dilapider l'argent public en soutenant les canards boiteux. Alors il y a des succès quand même dans l'action de l'État. Vous prenez par exemple But et Conforama. Vous avez vu Guillaume, on annonce ça y est, ils se marient ces deux-là. C'était pas fait. Pourquoi? Parce que Conforama hésitait à ce rachat et négocier en même temps un prêt garanti par l'État. Qu'a dit l'État? C'est vous aurez le PGE, le prêt garanti, quand vous vous serez marié avec But, parce que moi autrement votre plan, j'ai pas confiance, je le sens pas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le mariage a été fait et le prêt a été accordé juste dans la foulée.
C'est un prêt qui porte sur 25% du chiffre d'affaires.
Exactement. Donc vous voyez, c'est ça, c'est cette idée qu'on veut bien soutenir les boîtes, mais pas à toute force. On va pas créer comme ça des emplois zombies ou soutenir des entreprises qui ont peu de chances de survivre. Le problème pour l'État, en fait, c'est que vous avez des entreprises qui ne sont pas toutes victimes du Covid et qui sont en train de prendre des mesures de restructuration un petit peu drastiques. On voit, les chiffres parlent, hein, c'est très fort. Le rythme des plans sociaux, il n'arrête pas de s'accélérer. On a une trentaine de PSE déposés chaque semaine maintenant depuis le 15 juin. Et alors, il y a une formule aussi de Laurent Berger que j'aime bien, qui résume assez bien les choses, c'est que comme quand il y a une marée noire, bah là en ce moment, vous avez des pétroliers qui en profitent pour vider leur cuve au large en disant ni vu ni connu. Je vous donne un exemple. C'est pas une boîte très connue, c'est pas un Airbus, c'est pas un Air France, c'est une boîte qui est dans le nord de la France, qui est à Roubaix, qui s'appelle Conduent. C'est une boîte américaine. Eux, alors, ils disent, on a perdu notre principal client. Ils avaient un contrat de sous-traitance pour le service client de PSA. Oui, sauf qu'en fait, le contrat, il a été transféré à un autre site de Conduent au Maroc. Et donc, ils ont demandé l'homologation de leur plan social en France et, avec justesse, l'inspection du travail a refusé en disant on n'est pas en train de faire des licenciements parce qu'on n'a plus de travail. Là, c'est de la convenance. C'est un plan de compétitivité, très clairement. Donc, le soupçon, là aussi, par exemple, chez Daher, sous-traitant d'Airbus, qui a annoncé 1300 suppressions de postes, mais avant même qu'Airbus annonce lui-même des suppressions de postes. Est-ce que le groupe, là aussi, s'est pas servi du Covid comme d'une aubaine? Idem chez Nokia. Donc tout le problème pour l'État aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arriver à sous-peser qui sont les gens honnêtes, quelles sont les entreprises qui souffrent réellement de la crise et celles qui se servent de cette crise. Bonne question à poser à Agnès Pannier-Runacher, c'est comment on fait ça? Est-ce que les contrôles, même a posteriori, peuvent éviter d'avoir comme ça des plans de compétitivité masqués derrière des plans de restructuration?
D'ailleurs, le contrôle devra aussi s'établir autour du PGE, du plan garanti par l'État, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte et qui prennent le plan garanti pour l'État et qui l'utilisent, alors que les entreprises sont a priori condamnées. Il est 7h47, c'est un grand moment d'histoire que nous allons vivre, merci Dimitri, avec le camarade Renaud.